Ambiance Africa.
Ambiance
Africa.
Africa.
Avec Aïssatia.
Merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Africa Radio. Allons-y avec notre spécialiste du vendredi. Nous sommes en compagnie d'Eva Barra. Elle est ethno-coach en fusion culturelle. Elle a toujours travaillé dans le social et elle aime aider et apporter du sens dans la vie des autres. Et depuis 2 ans, elle est ethno-coach. C'est un concept qu'elle a créé pour aider les afro-descendants à trouver leur place. Merci de nous rejoindre au téléphone d'Africa Radio ce vendredi. Eva Barra, comment ça va ?
Écoute, je me porte bien. Et toi, comment tu te sens ici ?
Tout va bien. Alors Eva, on a abordé tout plein de sujets, on a parlé de la manière de parler des derniers événements à nos enfants, on a parlé des forces et des faiblesses de notre foyer que le confinement a mis en lumière. La semaine dernière, on parlait du couple confiné. Aujourd'hui, le confinement et monoparentalité, Eva Barra, c'est le sujet.
Exactement. Déjà, un grand merci à toi, Aïssa, pour ton invitation et pour ces sujets qui sont vraiment enrichissants pour les personnes qui nous écoutent. La monoparentalité, c'est vraiment un sujet qui a fait mal pendant le premier confinement parce que justement, c'est rentré dans les mœurs très rapidement et depuis quelques années déjà. Et ce confinement-là a pu mettre en lumière les difficultés que ces personnes pouvaient rencontrer en monoparentalité.
Déjà, à deux, c'est pas facile, alors tout seul.
Totalement. Exactement. Donc du coup, aujourd'hui, oui, c'est ce qu'on va aborder, voir un petit peu comment les personnes ont pu appréhender cette monoparentalité-là. Comme je disais, justement, c'est de revenir au fait que, en tant qu'afro-descendant, c'est important de le poser. En Afrique, ça ne se joue pas de la même façon. C'est-à-dire que il y a l'enfant qui va naître, du coup il y a ses parents, et bien souvent il y a les grands-parents qui sont présents. Soit il y a la cour commune, soit il y a 3 générations sous le même toit.
Ouais.
Et du coup en Occident, eh bien on est beaucoup plus singulier. Donc finalement chacun a sa vie, sa maison et ses règles en fait. Donc quand les parents sont un relais, eh bien c'est un relais extérieur. Et le premier confinement a amené justement le fait que chacun restait chez soi.
Ouais.
Donc les personnes qui étaient en monoparentalité avaient moins la possibilité de se faire relayer.
Et surtout que les grands-parents doivent un peu les protéger, puisqu'ils sont les premiers impactés par la pandémie. Donc c'est vrai qu'il y a certains grands-parents qui hésitaient à accueillir leurs petits-enfants chez eux notamment.
C'est ça, parce que justement, il y avait une ouverture autour des modes de garde, mais à la fois, en même temps, on nous expliquait que il fallait être bienveillant et penser justement aux personnes âgées et justement qui sont beaucoup plus fragiles.
Ouais.
Donc, eh bien, les personnes qui avaient pour mode de garde une grand-mère qui gardait les enfants, eh bien, se sont retrouvées en difficulté parce que cette grand-mère-là, fallait la protéger et que les enfants, quand bien même on nous dit qu'ils ne sont pas porteurs du virus, eh bien, ils restent ils restent des vecteurs. Donc, ça a isolé encore plus des personnes âgées et à la fois, ça a mis un peu plus en danger des personnes qui étaient en situation de monoparentalité.
Mais tu fais bien de bien marquer le premier et le deuxième confinement parce que le premier confinement, il n'y avait pas d'école, alors que là, c'est...
Totalement. C'est pas... Totalement. C'est vrai que du coup, le premier confinement, il a été vécu assez violemment par des personnes. Hein. Du coup, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté à ce moment-là parce que c'était un petit peu panique à bord de se retrouver 24 heures sur 24 avec ses enfants. Elle me disait, Eva, tu comprends, je les adore, mes enfants. Mais là, ça va plus, en fait. Je peux plus les voir. Donc, ça met aussi l'importance du fait qu'on ait besoin de présence et d'absence.
Oui.
Et c'est aussi comme ça que l'enfant se construit justement en créant l'absence de son parent. On voit bien quand ils sont tout petits qu'on les dépose à la crèche à l'école maternelle, et ben il y a des pleurs parce que justement ça crée l'absence et finalement il y a des retrouvailles, donc l'émotion est encore plus forte parce qu'il y a eu l'absence entre les deux. Donc quand on les a 24 heures sur 24, je pense que eux ils en ont marre de nous et nous on en a marre d'eux. Arrivé à un moment donné. Et c'était important à mon échelle de leur dire que c'est normal. C'est normal que justement qu'il y ait ce trop-plein, c'est normal qu'il y ait ce débordement. Et du coup, c'est important de créer des rituels. Et c'est là où on va venir tout doucement, c'est que vivre sous le même toit 24 heures sur 24, c'est une chose. Vivre collé en mode glue 24 heures sur 24, c'est pas la même chose.
Et surtout qu'il faut aussi prendre en compte, dans le cas de la monoparentalité, qu'il y a certains parents qui étaient obligés de continuer leur travail, qui étaient en télétravail, qui avaient les enfants à la maison, tout seuls.
Totalement. Bah, c'est ce qu'on avait abordé. Justement, on avait abordé le télétravail ensemble. Et justement, eh bien, les personnes qui devaient à la fois apprendre, parce que le premier confinement, on a vraiment appris le télétravail, ça a été découvert pour beaucoup de personnes, même si les entreprises anglo-saxonnes le pratiquent très couramment depuis des années. Pour beaucoup, ça a été une découverte, le télétravail. Et découvrir le télétravail, à la fois l'école à la maison, c'était peut-être un combo qui était pas simple pour beaucoup de parents. Déjà, comme tu disais tout à l'heure, à deux, c'était déjà pas simple. Ouais. Et du coup, quand ils étaient à deux, bah, moi, j'ai des couples qui m'ont expliqué que, bah, en fait, pendant que madame avait sa réunion de boulot dans le salon, je me mettais dans la chambre avec les enfants pour jouer avec eux, pour ne pas qu'on la dérange. Mmh. OK. Déjà, il y avait déjà deux personnes. Et personnes qui sont tout seules, et bien finalement, il y a eu pas mal de personnes qui ont essayé. Bah, en fait, j'étais en pleine réunion, on voyait ma fille passer. OK. C'est en vision, ça. Donc du coup, c'est pas la même chose. La concentration n'est pas la même. La disponibilité, bah, pour son enfant et pour son boulot n'est pas la même. Et puis, comme tu l'expliquais si bien, dans le premier confinement, il n'y avait pas d'école. Donc les parents avaient aussi cette pression de faire le boulot de la maîtresse.
Ouais, parce que tu finis ton boulot, tu descends dans la cuisine ou tu vas dans la cuisine pour faire à manger, après t'enchaînes. En fait, c'était des journées.
Mais... c'est totalement ça. Et puis du coup, lui qui est au collège, eh ben, tu dois lui imprimer ses documents parce qu'il doit faire ses exercices. Ensuite, il faut les rescanner pour les envoyer à son école. Et en fait, toutes les casquettes ont été portées par les parents, et quand c'est en monoparentalité, bah, par une seule personne. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont eu des situations de crise pendant le confinement, parce que finalement c'était trop. On leur en demandait trop, et c'est important de pouvoir dire voilà où je vais et voilà où je m'arrête. Donc petit à petit, déjà un par rapport à soi, ce serait de recadrer, bah, en fait oui, ok, ça j'y vais. Je ne suis pas prof, moi c'est ce que j'ai répété pendant tout le confinement à des parents. Soyez indulgents envers vous-même. C'est un métier, ils ont fait des années d'études pour être professeurs. Ce n'est pas le vôtre. Du coup, vous êtes des parents qui donnent les informations à vos enfants, qui expliquent à leur échelle, mais ne vous mettez pas en pression parce que ce n'est pas votre métier. Donc déjà, d'être clément et bienveillant envers soi-même, et ensuite de responsabiliser autant que possible les enfants. Donc ça va dépendre de l'âge, bien sûr, mais il y a une méthode occidentale qu'on appelle la méthode Montessori, qui consiste à autonomiser les enfants. Et pendant ce confinement-là, on a vu la différence entre des enfants qui sont déjà responsabilisés au quotidien et des enfants qui, parce qu'on ne les voit que 4 heures par jour, eh bien, on accepte qu'ils nous envahissent.
Absolument, c'est vrai.
Donc pour moi, ce serait la clé de ce confinement-là, et comme j'aime à dire, ce serait bien qu'on apprenne de chaque situation. Ce qu'on pourrait apprendre du fait d'avoir été confiné et d'être confiné en monoparentalité, c'est d'en faire une opportunité d'autonomisation de son enfant. C'est de l'autonomiser sur sa mise au travail, de l'autonomiser sur ses activités, de l'autonomiser sur le droit de s'ennuyer.
Et sur la gestion du quotidien dans la maison, par exemple, mais va mettre ton linge toi-même au sale, aide-moi à trier le linge.
Exactement. Bah, on pourrait aussi en profiter pour justement les faire participer dans les tâches de la vie quotidienne. J'ai beaucoup de personnes qui me, comme tu sais, justement, je fais souvent des interventions sur Instagram à travers des lives, et on aborde justement ces questions-là, la participation des enfants, et beaucoup te disent que, bah, en fait, non, je fais le ménage quand ils sont absents. Ou je fais à manger quand ils sont absents. Donc pour ces enfants-là, quand ils rentrent à la maison, bah, c'est de la magie en fait. Le ménage et toute la maison, elle est remise en état toute seule. Le repas, il se prépare tout seul. Le confinement leur a permis d'y assister quelque part, de pouvoir voir maman ou papa faire le ménage, et aussi de s'impliquer. Donc oser aussi en tant que parent dire bah, écoute, est-ce que tu peux m'aider à t'occuper de ton petit frère ou ta petite sœur ? Est-ce que tu peux m'aider à mettre le linge au sale ? Est-ce que tu peux venir m'aider à éplucher les légumes ? Et du coup, t'es faire de cet événement sur lequel on n'a pas de contrôle une opportunité, eh bien, de mieux se connaître les uns les autres, et que l'enfant se rende compte aussi qu'en fait, quand je suis à l'école, quand je suis pas là, c'est tout ça que maman fait, c'est tout ça que papa fait. Et ensuite, bah justement, pour moi, c'est vraiment important d'insister là-dessus, leur permettre de se créer du temps tout seul. Et en ce qui concerne justement les personnes qui sont dans les grosses villes, il y a une question de place. C'est une réalité, les logements au mètre carré, le mètre carré compte. Eh bien, à ce moment-là, pour moi, c'est important de délimiter des zones pour l'enfant. C'est de dire, bah, écoute, à tel moment, peut-être après le repas, eh bien c'est le moment où tu te fais un temps calme, tu prends un livre et tu te mets à tel endroit. Et pendant ce temps-là, peut-être que maman ou papa va se prendre un café et je me mettrai à tel endroit. Mais pendant 30 minutes, 40 minutes, chacun est dans son univers, chacun est dans sa zone.
C'est vrai que pour certains, on les laisse un peu nous envahir. Elles sont tout le temps au salon, à écouter les conversations d'écran. Oui, il y a des enfants voilà, qui ne vont jamais dans leur chambre, en fait.
Oui.
Surtout les enfants seuls, par exemple, les enfants solos.
C'est beaucoup les enfants. C'est vraiment une question qui se pose beaucoup autour des enfants uniques, la capacité à s'ennuyer. Parce que dès lors qu'ils sont deux, trois, eh bien, ils jouent entre eux, donc ils sont beaucoup moins à solliciter les parents. Mais par contre, on le retrouve souvent, et c'est ce qui remonte souvent dans mes accompagnements, c'est que les premiers sont assez autonomes et ont une meilleure gestion de leur solitude. Là où justement les derniers, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué.
Ah, tu parles du premier de la fratrie, d'une fratrie.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Les premiers de la fratrie sont beaucoup plus autonomes. Là où les derniers, pour eux, ils sont beaucoup plus sollicitants. Il suffit juste que les frères et sœurs ne soient pas là. Et on se rend compte, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils me collent comme ça. Bah non, en fait, c'est qu'habituellement, c'est tes frères et sœurs qui le collent.
Et c'est vrai que peut-être aussi quand on a grandi, bon moi c'est peut-être mon cas, je suis en train juste de faire un peu d'introspection, de me dire que peut-être aussi quand on a grandi dans des familles où il y avait beaucoup de frères et sœurs, après à son tour quand on devient maman et qu'on a un ou deux enfants, on a envie de passer du temps avec eux et puis des fois on se laisse un peu déborder sans le vouloir et ça devient une habitude pour ces enfants-là.
Oui, c'est vrai que pour le coup, les enfants eux-mêmes, eh bien, ils composent avec ce qu'on leur donne. Donc, si on a pris l'habitude de les laisser, enfin de leur autoriser justement à être avec nous tout le temps, eh bien, ils vont habiter cet espace-là. À la fois, si on tente de leur dire, écoute, là, tout de suite, je ne suis pas disponible, on se rend compte aussi qu'ils sont capables de l'entendre. Moi, ce que j'invite à faire vraiment, c'est de différer, oui, mais par exemple, de pouvoir dire à l'enfant, écoute, là, tout de suite, tu vois bien que maman, papa n'est pas disponible. Par contre, ce que je te propose, c'est que, allez, à 18h, on s'assoit et on fait ce que toi, tu veux. Mais c'est exactement ça. C'est que finalement, du coup, être tout le temps avec l'enfant, eh bien, n'est pas forcément réellement disponible pour lui. Ouais. Et en même temps, on n'est pas réellement disponible pour ce qu'on est en train de faire.
C'est vrai.
J'ai des parents qui me disent, en fait, du coup, oui, je travaille et en même temps, j'échange avec elle, donc on est ensemble. Oui, mais en fait, t'es pas réellement concentré sur ton travail et t'es pas réellement en train de jouer avec elle. Et si tu lui dis, écoute, là, maman ou papa se concentre pendant une heure, je dois absolument envoyer ça au bureau. Par contre, dans une heure, on se pose et du coup, je vais jouer avec toi à la dinette.
En tout cas.
Et là, du coup, l'enfant est sur un rendez-vous et du coup, il se sent écouté dans son besoin et responsabilisé parce que du coup, il arrive à différer en fait.
Et donc, du coup, tu parlais tout à l'heure de rituels qu'on pouvait mettre en place avec eux.
Totalement. C'est un peu dans ce registre-là, justement, c'est de pouvoir poser avec eux soit un calendrier, un hebdomadaire, pouvoir leur dire, mais avant d'arriver sur la semaine, c'est déjà la journée. Pouvoir voir avec eux comment se déroule une journée et qu'on se mette presque un contrat, en fait. Du coup, le matin, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. OK, du coup, en fait, plus on va, ça va être fluide à ce niveau-là, plus il va nous rester du temps pour s'amuser ensemble. Mais tu comprends bien que si je dois te dire 15 fois d'aller ranger ton linge, je dois te dire 15 fois de ranger ta chambre, eh bien, c'est du temps qu'on n'a pas pour discuter ensemble, c'est du temps qu'on n'a pas pour regarder un dessin animé ensemble, par exemple, pour regarder un film ensemble. Donc, c'est les responsabiliser et finalement leur faire comprendre que c'est un rituel quotidien. Et quand on fait les choses, et au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Et parce que ça devient un automatisme, et bien on crée du temps, on investit le temps qu'on a économisé là, dans les répétitions de papa ou maman pour pouvoir l'injecter dans des choses qui nous plaisent, qu'on a envie de faire avec nos parents.
En tout cas, bon, et on a du boulot. on va s'y mettre.
Oui, comme du coup, on y va petit à petit.
Comment s'est passé le rendez-vous de dimanche dernier?
Alors du coup, l'atelier s'est super bien passé. Les personnes justement ont réussi à lâcher prise un petit peu sur sur cette année. On a beaucoup échangé autour de ce qui se joue sur le confinement, ce que ça a pu bouger dans leurs croyances et dans leurs projections, parce que forcément on a des plans sur une année, et puis le confinement a commencé en mars, donc de 2020, ça a changé beaucoup de plans de beaucoup de personnes. Donc on a pu échanger sur tout ça, et les gens ont pu se libérer de tout ça à travers l'écrit et se planifier pour l'année suivante.
Très bien, très bien. Et on rappelle donc que tu es disponible sur les réseaux, que tu prodigues aussi des conseils via des vidéos sur Instagram.
Exactement, totalement. Donc du coup, j'essaie autant que possible de pouvoir échanger sur ces questions-là, sur la fusion culturelle, sur le fait que ben, en fait, on n'est pas totalement d'ici, on n'est pas totalement d'ailleurs, on est les deux. On est ce qu'on choisit d'incarner de ces deux cultures et comment justement on lance des débats autour de l'alimentation, comment on fait manger nos enfants, comment on transmet la langue ou non de nos pays d'origine. Voilà, c'est vraiment des échanges très enrichissants et je prends plaisir à animer ces temps de parole.
N'hésitez surtout pas à retrouver Eva Barra sur les réseaux pour être accompagnée si vous le désirez. Elle est ethno-coach en fusion culturelle. Ça a été un vrai plaisir comme d'habitude. J'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver vendredi prochain pour d'autres conseils aux auditeurs qui nous écoute, Eva.
Avec grand, grand plaisir.
Merci, merci beaucoup. On te souhaite un très bon week-end et puis on se dit à vendredi prochain.
À vendredi prochain, Aïssa.
Salut.